Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 51, Daf Nun Aleph. Bonne écoute et bon limoud.
Metaheret trefata mitumata, cet abattage enlève l'impureté de cet oiseau, même lorsqu'il s'avère être interdit à la consommation parce qu'il est trefa. Af melika shemarcheratar beachila, ainsi aussi s'il s'agit d'un sacrifice qui a été sacrifié par sectionnement de la nuque qui permet cet oiseau à la consommation, tetaher trefata mitumata, cette sacrification devrait enlever son impureté même lorsqu'il s'avère être interdit à la consommation parce qu'il est trefa. Rabbi aussi Omer, dayah kenevelat behema tehora, il suffit que l'oiseau ait les mêmes lois que le cadavre animal pur, shishritata metaharata, où seul l'abattage rituel enlève son impureté même lorsqu'il est interdit à la consommation, velomelikata, mais non pas si sa nuque était sectionnée. Car si la nuque de l'animal est sectionnée, celui-ci a le statut d'un cadavre animal qui est impur. Donc finalement, nous avons trois avis. Selon Rabbi Meir, soit l'abattage rituel, soit la sacrification par sectionnement de la nuque enlève l'impureté de l'oiseau même lorsqu'il s'avère être interdit à la consommation parce qu'il est trefa. Selon Rabbi Yehuda, dans les deux cas, donc soit l'abattage rituel, soit la sacrification par sectionnement de la nuque n'enlève pas l'impureté de l'oiseau s'il s'avère être interdit à la consommation parce qu'il est trefa. Selon Rabbi aussi, l'abattage rituel de l'oiseau enlève son impureté même lorsqu'il s'avère être interdit à la consommation parce qu'il est trefa, mais la sacrification par sectionnement de la nuque n'enlève pas son impureté s'il s'avère être interdit à la consommation parce qu'il est trefa. En tout cas, Rabbi Meir, qui a appliqué la déduction, en fait en deux temps, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, a appris quelque chose par le moyen du Binyanav, de quelque chose que nous avons appris par le moyen d'un raisonnement a fortiori, alors que la dernière chose que nous apprenons est une loi concernant les sacrifices, puisqu'il s'agit d'un oiseau qui a été sacrifié comme sacrifice. Nous voyons donc que selon Rabbi Meir, au moins, ce que nous avons appris par le moyen d'un raisonnement a fortiori, nous pouvons l'enseigner ailleurs par le moyen d'un Binyanav. La Gemara réfute Velohi, cette preuve est fausse. Car premièrement, comme la Gemara l'explique plus loin d'Av Samertet, Rabbi Meir l'apprend d'un pasouk. Et même si nous voulons dire que le fait qu'en premier il a présenté cet argument, nous pouvons déduire qu'en fait il était possible d'enseigner quelque chose que nous avons appris par le moyen d'un raisonnement a fortiori, par le moyen d'un Binyanav. Quand même, Hatam Teavehi Mishrita Dechulin Kaatian, la source de son raisonnement provient de l'abattage rituel d'un animal profane. Donc la source de l'enseignement est quelque chose de profane et non pas une loi concernant les sacrifices. Et ceci, comme nous l'avons dit précédemment, dépend d'une discussion entre Rav Papa et les autres Amoraïm. Donc selon Rav Papa, nous avons une preuve de cet enseignement de Rabbi Meir, tandis que selon les autres Amoraïm, on n'a toujours pas de preuve. La Gemara demande d'avoir halamed bebinyanav, quelque chose que nous avons appris par le principe du binyanav qui permet d'étendre une loi ailleurs tant qu'il n'y a pas de réfutation. Mahu shelamed behekesh ou begzera shava ou bekal vachomer ou bebinyanav. Peut-on l'enseigner ailleurs, soit par le moyen du principe de la juxtaposition, soit par le moyen du principe de la gzera shava, soit par le raisonnement fortiori, soit par un autre binyanav? La Gemara répond, pshot mia chada. On pourrait au moins résoudre une de ces questions. Et cela à partir d'une braïta qui interprète l'opinion de Rabbi Yehuda concernant les types de sacrifices invalidés qui sont acceptés a posteriori sur l'autel. C'est-à-dire que si on les a fait monter sur l'autel, on n'a pas besoin de les faire redescendre, ils devront rester sur l'autel pour être brûlés. Alors la braïta dit comme suit, « Mipnema amru, pourquoi a-t-on dit l'an bedam kasher, que si le sang du sacrifice a été invalidé parce qu'il est resté après le coucher du soleil et il n'a pas été aspergé, pourquoi dit-on que si on l'a fait monter sur l'autel dans un récipient, nous disons que ce sang est valable? Donc, comme l'explique le Tosfot plus loin, daf pezaïn amudbet, il faudra l'asperger, il sera donc agréé. La Braïta répond, shehare l'an be'emurim kasher, C'est parce que nous avons vu par ailleurs que si les graisses du sacrifice ont été invalidées parce qu'ils ont passé la nuit sans qu'on les a montées sur l'autel, ils sont quand même valables, c'est-à-dire si on les a fait monter sur l'autel, ils seront agréés. Nous étendons donc cette loi au sang du sacrifice qui a été invalidé, apparemment, par le moyen du principe du binyanav. L'an be'emurim kasher, nous disons que si les graisses du sacrifice ont été invalidées parce qu'ils ont passé la nuit sans qu'on les a fait monter sur l'autel, quand même, nous disons qu'ils sont valables, c'est-à-dire que si on les a fait monter sur l'autel, on ne les fera pas redescendre. D'où le savons-nous? La Braïta répond, Shehare lan bebasar kasher, c'est parce que nous voyons qu'il existe de la viande du sacrifice qui est valable, même si elle a passé la nuit. En effet, le korban shlamim se mange pendant 2 jours et une nuit, donc lorsqu'il a passé la nuit, il est valable. Nous appliquons ici aussi un binyanav pour apprendre que lorsque les graisses du sacrifice ont passé la nuit et qu'ils ont été par conséquent invalidés, quand même, ils seront agréés si on les fait monter sur l'autel. Donc finalement, nous voyons que nous apprenons quelque chose que nous avons appris par le moyen d'un binyanav et nous l'enseignons ailleurs par un autre binyanav. La Braïta poursuit, Yotse, si les graisses du sacrifice ont été invalidées parce qu'on les a fait sortir du sanctuaire, ils sont valables, c'est-à-dire que si on les a fait monter sur l'autel, ils seront agréés. Ho'il veyotse kasher bebama, car pour l'autel privé, le sacrifice qui sort du cadre de cet autel est quand même valable, car dans l'autel privé, il n'y a pas de délimitation d'endroit. Donc finalement, puisque nous voyons qu'il existe un cas où ce qui sort de l'enceinte de l'autel est valable, nous appliquerons cela de même pour ce qui sort de l'enceinte du sanctuaire. Tamé, si le sacrifice a été invalidé parce qu'il est devenu impur, quand même il sera agréé sur l'autel si on l'a fait monter par erreur sur celui-ci. Ho'il vehutar ba'avodat tzibur, car lorsqu'il s'agit de sacrifice public, l'impureté est permise. Nous nous permettons donc de lever l'interdiction d'offrir des sacrifices impurs lorsqu'ils ont été offerts donc a posteriori. Chutz Lizmano, le sacrifice qui a été invalidé par une intention invalidante du Kohen, qu'il serait offert en consommé en dehors du moment prévu par la Torah pour le faire, quand même s'il a été offert sur l'autel, ce sacrifice est agréé. Ho'il umeratzel epigulo, car le service de l'offrande de ce sacrifice invalidé, notamment l'aspersion de son sang, est agréé pour que le pigoul prenne effet. Car en fait, cette invalidité du pigoul ne peut prendre effet que si le sang a été aspergé correctement. Or, lorsqu'il y a eu une intention invalidante, le sacrifice est invalidé. Quand même, nous considérons que l'aspersion est valable pour que cette invalidité du pigoul prenne effet. Donc nous voyons qu'en quelque sorte, le service de l'offrande de ce sacrifice qui a été invalidé par une intention invalidante est agréé. Nous appliquons ce raisonnement pour qu'il soit agréé aussi a posteriori. Chutz Limkomo, un sacrifice qui a été invalidé par une intention invalidante du Kohen qu'il serait offert ou consommé en dehors du lieu prévu par la Torah pour le faire, est agréé a posteriori, ho'il ve'ukash le chutz lizmano, car les lois concernant cette invalidité ont été juxtaposées, donc comparées, aux lois du sacrifice qui a été invalidé par l'intention invalidante qu'il serait offert au consommé en dehors du moment prévu par la Torah pour le faire. Donc aussi, a posteriori, il sera accepté. Shekiblu psulim vezarku daman, le sacrifice qui a été invalidé parce que des Kohanim invalidés ont recueilli ou aspergé son sang, est aussi accepté a posteriori, Behanach Psulin de Chazou l'Avodat Tzibur, il s'agit de Kohanim invalidés qui sont en fait valables pour le service public, c'est-à-dire des Kohanim impurs. Mais en ce qui concerne d'autres invalidités, en fait, le sacrifice ne sera pas agréé. En tout cas, comme nous l'avons expliqué au début de la Braïta, nous voyons que quelque chose que nous avons appris par le moyen d'Abinyanav peut être enseigné ailleurs par le moyen d'Abinyanav. La Gemara réfute. Vechi danin davar shelo berchero mi davar shebercherro. Peut-on apprendre et déduire quelque chose dans le cadre d'une invalidité des lois concernant le sacrifice lorsqu'il est accepté et qu'il est valable? En effet, nous voulions déduire que les graisses du sacrifice qui ont été invalidées parce qu'ils ont passé la nuit sont acceptées a posteriori du fait que la viande du sacrifice, notamment le korban shlamim, est encore valable et permise à la consommation même lorsqu'elle a passé la nuit. Comment peut-on appliquer ce raisonnement du Binyanav pour apprendre justement que les graisses qui ont été invalidées sont acceptées a posteriori? La Gemara répond, Tana, l'auteur de cette braïta, Mizot Torat Ha'ola Riba Samichle, s'appuie sur une autre interprétation. Il s'agit de l'interprétation du pasouk dans Vaikra Vav, qui dit, voici la règle générale concernant le Korbanola. Cette expression Torat Ha'ola, la règle générale du Korbanola, inclut d'autres cas. Et c'est de là que nous apprenons qu'il existe des sacrifices qui sont acceptés a posteriori, même s'ils sont invalidés. Seulement, comme l'Agmara l'explique plus loin d'Af Pédalet, on ne peut pas inclure tous les sacrifices et tout type d'invalidité. L'auteur de la Braïta a appliqué les raisonnements que nous avons vus pour déterminer quels types d'invalidité seront agréés et lesquels ne le seront pas. En fait, son raisonnement est que partout où l'invalidité n'est pas grave, car il existe des cas où de toute façon cette interdiction, cette invalidité est permise, nous pourrons l'inclure dans les cas où ces invalidités sont acceptées a posteriori. Donc finalement, nous ne pourrons rien apprendre de cette braïta, et la question que la Gemara a posée est donc restée sans réponse. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Shiare Adam, etc. Le reste du sang du sacrifice sera versé sur la base ouest de l'autel. » La Gemara demande « Maïtama, pourquoi, d'où le sait-on ?» La Gemara répond « Amakra, le pasouk dit » dans Vaikra Dalet, concernant les Korban Khatat dont le sang est aspergé à l'intérieur du sanctuaire, et il versera tout le sang, donc le reste du sang, Eliosod Mizbar Haola, Asher Petach Oel Moed, à la base de l'autel où on offre le Korbanola, qui se trouve à la porte du sanctuaire. La Gemara interprète, par cette précision, Hahu de Paga Beresha, il versera le reste du sang à la base de l'autel qu'il rencontre en premier lorsqu'il sort du sanctuaire, et en fait, il rencontre donc la base ouest de l'autel. Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta. Cette braïta va interpréter le fait qu'à trois reprises, dans Vaikra Dalet, le pasouk s'exprime en disant que le reste du sang sera versé à la base de l'autel où est offert le korbanola. En fait, le pasouk aurait pu se contenter, comme il écrit ailleurs, que le reste du sang serait versé à la base de l'autel. Alors, le pasouk s'exprime de cette manière concernant trois korbanot khatat. Le premier, c'est le korban khatat offert par le Kohen Gadol qui a fauté. La deuxième fois, c'est concernant le korban khatat offert par le public qui a été induit en erreur par le tribunal. Le troisième, c'est concernant le korban khatat offert par le prince ou par le roi. Alors, la Braïta dit, la première fois, lorsque le pasouk dit « Eliosod Mizbach Haola », il versera le reste du sang à la base de l'autel où est offert le korban Ola. Le pasouk vient nous enseigner « Velo Yosod Mizbach Apnimi », il ne versera pas ce sang à la base de l'autel intérieur, donc qui se trouve à l'intérieur du sanctuaire. Lorsque le pasouk dit une deuxième fois « Eliosod Mizbach Haola » vers la base de l'autel où est offert le korban Ola, cette deuxième précision vient nous enseigner En lo yesod lapnimi atzmo. L'autel intérieur, donc qui se trouve à l'intérieur du sanctuaire, n'a pas de base. Donc finalement, de toute façon, il n'y aura pas le choix que de verser le reste du sang à la base de l'autel extérieur. Mais en fait, nous avons besoin de deux psukim pour l'apprendre. Lorsque le pasouk dit une troisième fois El yesod mizbach haola, il versera le reste du sang à la base de l'autel où est offert le korbanola. Nous apprenons la chose suivante. Ten Yesod le Mizbach Shelola applique une loi générale de la base, donc de verser le reste du sang du sacrifice à la base pour l'autel où est offert le korbanola. Autrement dit, même là où la Torah n'a pas précisé que le reste du sang sera versé à la base de l'autel, il faudra quand même le faire. En la Braïta demande O Eno Ela, ou bien peut-être que cette précision supplémentaire ne vient pas nous apprendre cela, donc il y a une loi générale pour l'autel que tous les restes de sang sont versés à sa base, mais plutôt que ce qui est offert du Korban Ola devra être aspergé vis-à-vis de la base de l'autel. Autrement dit, que les aspersions du sang du Korban Ola doivent être aspergées dans les coins où il y a une base, donc ce qui viendrait exclure le coin sud-est de l'autel où il n'y a pas de base. La Braïta répond, pour cela, nous n'avons pas besoin de passouk spécial, car Amar Rabbi Ishmael, Kal Vachomer, nous pouvons l'apprendre par un raisonnement a fortiori, ou Ma Shiraim She'en Mechaprim, si les restes du sang du Korban Khatat, qui n'expie pas le péché, c'est-à-dire l'expiation du péché, ne dépend pas du versement des restes. La Gemara expliquera Teunin Yesod, quand même, il faut les verser à la base de l'autel. Trilat Ola Shemechaperet, le début du Korban Ola, c'est-à-dire l'aspersion primaire du Korban Ola, c'est-à-dire la première aspersion du Korban Ola qui expie le péché, c'est-à-dire l'expiation du péché pour lequel ce sacrifice est offert, dépend de cette aspersion. Enodin chez Teuna Yesod, n'est-il pas évident qu'il faudra l'asperger dans le coin où il y a une base? Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva présente un autre raisonnement a fortiori qui lui ressemble. Ma Shiraim She'en Mechaprim, si les restes du sang du Korban Khatat qui n'expie pas le péché, c'est-à-dire que l'expiation du péché ne dépend pas du versement des restes, Ve'en Baim Mechapara, et ne viennent même pas expier un péché. La Gemara expliquera la différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Teuna Yesod, quand même, il faut les verser à la base de l'autel. Trilat Ola, l'aspersion primaire du Korban Ola. Donc la première aspersion du Korban Ola, Shemecha Peret, qui expie le péché, ou Baal Echapara, et vient pour expier le péché. C'est-à-dire, l'expiation du péché dépend de cette aspersion. Enodin chez Teuna Yesod, n'est-il pas évident qu'il faudra la faire, donc, faire cette aspersion dans un coin où il y a une base? Imken ma Talmud lomar el yesod mizbach haola. Si c'est ainsi, pourquoi cette précision supplémentaire du pasouk qui dit il versera les restes du sang à la base de l'autel où est offert le korban ola? Ten yesod le mizbacha shelola. Applique la loi de la base, donc que les restes de sang sont versés à la base de l'autel pour tous les sacrifices qui sont offerts sur l'autel où est offert le korban ola. Donc de là nous apprenons que même là où le pasouk ne l'a pas précisé, les restes du sang de tous les sacrifices est versé à la base de l'autel. Amarmar, la Gemara reprend la Braïta point par point. La première interprétation était El Yosod Mizbach Haola. Il versera le reste du sang à la base de l'autel où est offert le Korban Ola. Velo Yosod Mizbach Hapnimi. Mais il ne le versera pas à la base de l'autel qui se trouve à l'intérieur du sanctuaire. Alors la Gemara demande, d'où le sait-on? Hamivaile, les gouffets. Nous avons besoin de ce pasouk pour enseigner la loi elle-même, donc qu'on peut verser le reste du sang à la base de l'autel extérieur, mais peut-être, toujours pourrais-je te dire, qu'on peut aussi verser le sang à la base de l'autel intérieur. L'Agma répond, pour cela, nous n'avions pas besoin de pasouk, car le pasouk dit, toujours dans le même chapitre, « Me'asher petach oel moed nafka », on aurait pu l'apprendre de l'autre partie du pasouk, qui dit, « Il versera le reste du sang à la base de l'autel qui se trouve » à la porte du sanctuaire. Donc nous voyons qu'il est permis de verser le sang à la base de l'autel extérieur. S'il y a une précision supplémentaire, c'est pour nous enseigner qu'on ne peut pas verser le reste du sang à la base de l'autel intérieur. Puis, nous avons vu une deuxième précision du pasouk qui nous enseigne que finalement, il n'y a même pas de base à l'autel intérieur. Lorsque le pasouk précise une troisième fois concernant le bouc offert par le prince ou le roi qui a fauté et dont le sang n'est pas aspergé à l'intérieur du sanctuaire, El Yesod Mizbach Haola, les restes du sang de ce sacrifice seront versés à la base de l'autel où est offert le Korban Ola. Nous tournons la page à Daf Nun Aleph Amud Bet. Cette précision nous enseigne, Ten Yesod le Mizbach Shelola, applique la loi de la base à l'autel où est offert le Korban Ola, autrement dit, les restes de sang de tous les sacrifices seront versés à la base de l'autel où est offert le Korban Ola, donc l'autel extérieur, même là où la Torah ne l'a pas précisé. Car s'il te venait à l'esprit que le pasouk veut uniquement nous enseigner ce qui est écrit, donc que le reste du sang de ce bouc offert par le roi sera versé à la base de l'autel, pourquoi a-t-on besoin d'un verset pour nous l'enseigner, les Shiraim, uniquement pour nous dire donc que les restes du sang sont versés à la base de l'autel, Shiraim, ha beraya vidleu. Pourtant, les restes du sang de ce sacrifice, il est évident qu'ils seront versés à la base de l'autel extérieur, puisque le sang de ce sacrifice a été aspergé sur l'autel extérieur. Donc, à plus forte raison que le reste, seront versés à la base de l'autel extérieur et non pas à l'intérieur du sanctuaire. Et si tu veux me dire que le pasouk nous enseigne qu'il faut inverser les endroits où sont versés les restes.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Nun Aleph Amud Bet. Cette précision nous enseigne Ten Yesod le Misber Shelola applique la loi de la base à l'autel où est offert le Korbanola, autrement dit, les restes de sang de tous les sacrifices seront versés à la base de l'autel où est offert le Korbanola, donc l'autel extérieur, même là où la Torah ne l'a pas précisé. Car s'il te venait à l'esprit que le pasouk veut uniquement nous enseigner ce qui est écrit, donc que le reste du sang de ce bouc offert par le roi sera versé à la base de l'autel, Hané Lamali, Kra, pourquoi a-t-on besoin d'un verset pour nous l'enseigner, les Shiraim, uniquement pour nous dire donc que les restes du sang sont versés à la base de l'autel, Shiraim, Ha Beraya Vidleu. Pourtant, les restes du sang de ce sacrifice, il est évident qu'ils seront versés à la base de l'autel extérieur, puisque le sang de ce sacrifice a été aspergé sur l'autel extérieur. Donc, à plus forte raison que le reste, seront versés à la base de l'autel extérieur et non pas à l'intérieur du sanctuaire. Et si tu veux me dire que le pasouk nous enseigne qu'il faut inverser les endroits où sont versés les restes.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.